Ça va. Quand même, c'est pas trop trop long. Alors. Vous aurez remarqué, donc dans ce texte, que nous avons affaire à un poème. Tous, nous avons appris des poésies à l'école primaire. Et nous savons bien que ce sont autant de petits bijoux littéraires. On en a encore dans nos têtes. Un bijou littéraire. Et je pense que même certains d'entre nous en ont composé des poésies. Et peut-être même comme celle que j'ai mise tout en haut, à gauche, hein, à partir des initiales de votre prénom ou de votre nom. Bon, moi j'ai pris mon nom, Gruson. Et puis c'est la première lettre de chacun des versets, des vers. Donc, voilà, c'est facile à faire, hein. J'ai pris un clin d'œil pour faire ce petit poème qu'on dit acrostiche. Et si je l'ai mis, c'est parce que à la quatrième page du feuillet que vous avez reçu, vous avez un acrostiche aussi. Mais, voyez, vous ne pouvez pas le deviner tout seul, parce que c'est en hébreu qu'on a des lettres, chaque premier mot de verset commence par une lettre bien précise qui est une lettre de l'alphabet dans l'ordre. C'est pour ça que vous avez sur le côté Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, c'est l'alphabet en hébreu. Bon, mais voilà, c'est une contrainte de composition. Si j'avais pas mis Gruson, j'aurais pu écrire encore autre chose, parce que déjà ce sont des contraintes. De donner une première lettre, ça vous oblige à choisir pas n'importe quel mot. Mais c'est pas une très grosse contrainte. Ça va. Alors, en fait, l'acrostiche alphabétique, vous lui donnez deux sens. Parce que l'alphabet, c'est un moyen de retenir. Ah oui, le premier vers, il commence par A, le deuxième par B. Ah bah oui, je retiens mieux le poème comme ça. Moyen mnémotechnique. Mais surtout, enfin en tout cas non moins, c'est une signification de plénitude, l'alphabet, en hébreu, très important, 22 ou 23 lettres. Donc, voilà une première contrainte. Mais s'il n'y avait que celle-là, ce serait vraiment un poème, un petit poème. Or, il y a un très grand nombre d'autres contraintes dans le poème, qui en font vraiment une œuvre d'art, un bijou. Et donc elle le structure, toutes ses contraintes, et elle préside à sa composition. C'est comme ça que l'auteur a fabriqué son poème à partir de contraintes. Et tous les chercheurs ont remarqué le rôle des mots dans le poème. Ils disent, les chercheurs, que ces mots organisent le poème. Alors, sans connaître l'hébreu, ça ne se voit pas, mais c'est pas grave. Je vous le dis et je vais vous montrer des choses. Alors, il y a aussi des mots rares, des mots qui ne sont pas comme la table, la chaise, le toit. Non. Vous avez des mots rares, et ces mots rares, dans la Bible notamment, on voit qu'ils sont rares, si vous voulez, quand on compare le texte du poème à l'Ancien Testament, eh bien, ça accroche l'attention. Et ces mots-là, ils pouvaient être des repères pour les scribes qui composaient, parce qu'ils avaient toutes les écritures en tête. Et donc, ils avaient, parce qu'il y avait bien des écrits, des supports, des rouleaux, bien sûr, pour toutes les écritures israélites. Mais ils avaient tout en tête, parce que c'était d'un maniement difficile, les rouleaux. Pensez bien, on savait plus, enfin, il fallait tout dérouler pour arriver au bon endroit. Donc il y avait des mots repères, des mots crochets. Donc ils avaient ça dans leur tête, et ils avaient une mémoire orale assez développé, même phénoménal. Voilà. Donc en fait, ces mots rares peuvent faire allusion à des passages d'écriture. Et si vous prenez la page 3 du feuillet, vous verrez que j'ai reproduit un texte du père des clés, Jean-Louis des clés, qui explique comment un poète ou un chant, un compositeur de chant peut faire allusion à sa culture dans ses chansons. Eh bien, je vous laisserai lire ça quand vous aurez une petite pause à midi, mais c'est très intéressant parce qu'il parle d'un chercheur japonais du 4e millénaire qui étudierait les chansons de Brassens. Eh bien, il a de quoi s'étonner et de se gratter la tête un bon moment avant de comprendre certaines choses qui, pourtant, pour Brassens, faisaient allusion à des éléments de sa culture. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point, l'importance des mots qui font des allusions à la culture ou aux écritures. Et ça joue beaucoup dans ce poème. Ensuite, on peut se dire... Qu'est-ce que c'est que cette dernière page du livre des Proverbes ? Il y a des chercheurs qui disent « Oh, mais ça, c'est une petite poésie indépendante. » Et puis on se dit « Ah bah tiens, ça irait assez bien, on va la prendre pour terminer le livre des Proverbes, ça irait bien quoi. » Voilà, ça fait hop, une petite pièce rapportée pour finir le livre. Mais enfin, sinon, à part ça, il n'y a rien de particulier. Ça parle d'une femme remarquable, voilà, mais ça va bien. Et puis, quand on la met dans le livre, cette bonne femme, eh ben, du coup, on la comprend par rapport à la sagesse. Parce que dans les premiers chapitres du livre des Proverbes, la sagesse, elle a l'air d'être une personnalité féminine. Donc... c'est elle hein, qui dit « Stupide, écoutez mon conseil, et puis j'ai dansé en présence du Créateur, et je vous invite à mon festin. » Bon, donc elle dit tout ça. Et on peut donc, quand on prend la dernière page, dire « Ah, mais c'est la sagesse, cette femme !» Mais ça serait peut-être simplement parce qu'on a mis un petit poème banal au bout. Ça, c'est la position du père Maurice Gilbert. C'est un écrit de circonstance. Mais il y a d'autres possibilités. Et la possibilité du dominicain McCreesh, c'est que lui, il pense que la composition, elle, a été faite en lien avec le livre. Et pour le livre, il parle d'un coda pour les musiciens. Vous savez qu'un coda, c'est un morceau final, un beau morceau final, qui reprend certes toute la symphonie ou toute la sonate ou toute la pièce qu'il termine et qui le précède, mais il ne répète pas le thème seulement, il est vraiment une belle finale en soi. Alors ça serait peut-être ça, d'après McCreesh, donc ça serait un poème, mais qui est vraiment lié, c'est pas une pièce rapportée comme ça qu'on a prise au hasard, on se dit ouais ça ferait bien, non, il y a vraiment un lien avec le livre. Et la troisième possibilité, c'est qu'il ait été composé en relation avec un ensemble plus large d'écritures, parce qu'on est à un moment clé du judaïsme du Second Temple, et les écritures commencent vraiment à former un certain corpus. La traduction en grec avec la Septante va bientôt venir. Hein, et bien sûr, donc, c'est une troisième piste, et ça va être la nôtre, d'une composition en relation avec les écritures d'israélites et la tradition de ce peuple à l'époque du Second Temple. Parce qu'il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé cela. Les anciens auteurs à la fin de la composition de l'Ancien Testament, de la rédaction de l'Ancien Testament, et aussi dans l'Intertestament, ils composaient à partir des écritures antérieures. Alors c'est facile quand on commence à être un étudiant, on fait comme les prédécesseurs, les anciens, on prend un modèle et on fait une composition. Mais ça peut être aussi quelque chose qui a un degré beaucoup plus élevé de qualité, de prendre les textes sur lesquels on s'appuie. Ça peut être pour faire pareil au niveau du style, mais ça peut être aussi pour les interpréter. Et ça, c'est une dame qui s'appelle Déborah Diman qui le distingue. Et donc, on pourrait bien l'avoir dans notre texte à faire à une telle composition, à partir de textes anciens, mais dans une composition interprétative, exégétique. Voilà le chemin qui est devant nous. Alors, sur mon papier, celui que je vous ai donné, j'ai mis « Cela va mieux en le disant ». J'ai dit déjà le premier point, hein, c'est-à-dire qu'il est apparemment Ici, question d'un poème qui mobilise sur des écritures israélites qui étaient dans un certain état à l'époque, au moins 4e, moins 3e siècle, et que bah, l'auteur avait tout dans sa tête, dans sa mémoire, toute la littérature, et avec des mots repères. Mais j'attire votre attention sur le fait que nous devons penser que ce compositeur, cet auteur qui compose le poème, eh bien, il le fait, vous allez me dire c'est une évidence, avec sa mentalité. C'est-à-dire que son rapport à ses écritures, son rapport aux écritures de son peuple, n'est pas celle qu'aura le rabbi au début de l'ère chrétienne. Il y a une position très différente de celui qui compose notre poème par rapport à ses écritures nationales, par rapport au rabbi qui va interpréter la Torah. Ce n'est pas la même mentalité religieuse. Et troisième point, le chrétien, évidemment, par rapport à l'Ancien Testament, il a une toute autre posture interprétative. Les pères de l'Église verront l'annonce de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc c'est un petit peu une prudence qu'il faut avoir quand on se dit, mais tiens, celui qui a composé le poème, le poète, je vais dire, pour aller plus vite, hein, il avait toutes ses écritures en tête, mais avec sa tête à lui, avec ses catégories culturelles, religieuses, mentales, sa religion. Hein, voilà. Alors, j'avance et je suis au milieu de ma première page. Il est vrai que ce que dit le texte peut être compris de manière réaliste. Ah, parce que c'est ce que dit Maurice Gilbert, bah, tout paraît réaliste. Donc c'est vrai, si vous le lisez, ça passe. Et ça, c'est une réussite. Le sens littéral du poème est réussi. Hein? Mais la plupart des exégètes pensent que ce poème a un sens symbolique, qu'il parle de la sagesse. Et pas seulement parce qu'il est au bout du livre des Proverbes, mais parce que de lui-même il parle. Il est composé en visant la sagesse. Mais nous allons devoir aller encore plus loin parce qu'il n'y a pas que la sagesse qui soit évoquée dans le poème. La preuve, la première difficulté à cette idée qu'il ne serait question que de la sagesse, c'est que le premier stick, le premier morceau de verset, parle de Ruth. Ça, quelqu'un, un juif qui connaît bien ses écritures, il voit tout de suite qu'il est question de l'arrière-grand-mère de David au premier stick. Une femme vaillante, c'est... Voilà, il n'y a pas à tournicoter. Hein. Bon. Donc, c'est vraiment une signification qui est derrière le sens littéral, une signification symbolique qui est plus riche que simplement une allégorie de la sagesse au sens occidental. Hein? Une allégorie au sens occidental, c'est une représentation où tout concorde en tout point, l'allégorie de la justice, etc. Ici, il va y avoir, et ça c'est écrit en haut de la deuxième page, un sens allégorique, c'est-à-dire un autre sens par rapport au sens littéral. Mais ça va être une signification symbolique plurielle, riche. Et donc le mot allégorique et surtout le mot symbolique, attention à leur emploi. Parce que symbolique, pour nous, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Bon, c'est symbolique, le franc symbolique. Alors qu'en fait, c'est une réalité très puissante que le symbole. Hein. Donc, voilà. Le symbole, c'est ce qui permet de se reconnaître à une époque donnée, entre co-religionnaires, entre personnes qui partagent quelque chose en commun. Donc, ça veut dire que les lecteurs du poème devaient pouvoir comprendre ce que le compositeur, l'auteur, le poète avait voulu dire. Et donc, il devait comprendre, il avait une connivence. À demi-mot, il comprenait les allusions. Il n'était pas comme le chercheur japonais par rapport à Brassens. Ce que le poème disait, il disait « Ah oui, mais c'est ça qu'il veut dire par derrière. » Alors que peut-être nous, on a du mal à voir ce que le poète veut dire par derrière. Hein? Voilà. Donc, la richesse du poème fait que il y a question de Ruth, mais peut-être jusqu'à, enfin, beaucoup de femmes dedans. La tradition juive a voulu en voir jusqu'à 22, comme les lettres de l'alphabet. C'est une chose à voir. Mais vous allez voir qu'il y a quand même question, il est question de beaucoup de femmes dans notre poème. Et Maïmonide connaît bien ce grand maître, hein, de l'époque médiévale, juif, connaît bien ce genre de poème. Il parle d'un objet d'orfèvrerie. Voilà, donc on va voir des petites têtes de matriarches dans le poème apparaître. On va voir Rebecca, peut-être Sarah, à un coin de poème, on va voir l'une ou l'autre apparaître, peut-être. Voilà. Et voilà, je vous laisse lire, si vous voulez vous documenter sur Maïmonide un petit peu, mais nous allons entrer dans le poème par son point aveugle. Et là, je vous invite à regarder les versets 26-27, le verset 30, je vous prie de m'excuser. La femme qui craint le Seigneur. Et ça, c'est la porte d'entrée dans le sens symbolique du poème. Parce que avec l'hébreu, on a des consonnes. Et donc, on peut comprendre que c'est une femme qui craint le Seigneur, mais aussi qu'on a affaire à une apposition. La femme qui est la crainte de Yahvé. Ah. Le jeu de l'hébreu permet de comprendre que c'est une femme qui est craignant le Seigneur. Mais on peut aussi assimiler la femme à la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, vous le savez par cœur, c'est la Torah. C'est une allusion, ça peut être une allusion à la Torah. C'est une expression du Deutéronome. Hein ? Bon. Et de là, on peut penser que la femme représente la Torah. C'est une des interprétations. Mais là, c'est vraiment très intéressant parce que tous les chercheurs sont d'accord pour dire que ce n'est pas la leçon originale. Et Maurice Gilbert qui dit c'est un poème qui n'a pas d'autre sens que son sens évident, et les symboliques comme MacRitch disent, tout le monde est d'accord pour dire mais cette expression elle paraît pas à sa place, et ils sont même d'accord, figurez-vous, les uns et les autres camps, pour dire à la place ça serait bien une femme avisée. Tout simplement. Et donc vous voyez la différence. Une femme avisée, futée, maligne. Et là, on n'a plus de connotation religieuse. Et donc du coup, disparaît totalement du poème toute connotation religieuse. Il n'y avait que la crainte du Seigneur dans le poème, pour dire que c'est une connotation religieuse. Or, ces messieurs, parce que c'est beaucoup de messieurs, disent... Cette expression, c'est une agrafe. Ça a permis d'accrocher le poème dans le livre des Proverbes. Il y a la crainte du Seigneur à plusieurs endroits dans le livre des Proverbes. Et hop, on a agrafé le poème avec la crainte du Seigneur. Mais en dessous, c'était la femme avisée. Ha, ha, ha. Et donc, ça fait le pendant à la femme vaillante, qui est au tout début. Alors, la Tob a traduit une femme de valeur. Mais moi, je dis la femme vaillante. Parce que c'est plus courant. Voilà. Et donc, on a comme un cadre du poème qui parle d'une femme qui est futée, une femme sage, une femme maligne, intelligente, avisée, mais pas seulement. Parce que derrière l'idée d'intelligence, il a une idée de réussite, une idée de vigueur. Donc vaillante, c'est bien, une femme vaillante, pour le début et pour la fin aussi. Et il y a des jeux de mots sur ce que c'est qu'une femme avisée et une femme sage, si on veut, et une femme qui réussit, parce que cette femme, elle réussit, hein. Bon. Et le fait que nous ayons dans ce poème un propos purement laïque, c'est-à-dire non religieux, Je dis laïque, je ne devrais pas dire laïque, mais pour vous parler, c'est un propos profane, voilà, merci Père. Donc, un propos profane, voilà. C'est, oh, ça attire l'attention. C'est quelque chose qui ressemble à ce que vous connaissez. Vous connaissez les paraboles évangéliques. Or, les paraboles évangéliques, c'est des petites histoires. Si vous êtes attentif, c'est des petites histoires de sagesse. Elles n'ont pas de termes religieux. On parle de chants, on parle d'un tas d'images qui n'ont rien à faire avec la Torah, la prière, bon, enfin, sauf certaines qui sont plus élaborées, un peu peut-être différemment, mais elles sont moralisées ensuite. Eh bien, c'est une caractéristique du machal. La parabole ou le machal. Parce que les proverbes, c'est leur nom. Machal, Michelet, Shlomo. Ce sont des machals de Salomon. Et donc, voilà. Première grande caractéristique, pas de propos religieux, mais un poème profane d'apparence. Et puis dedans, j'espère que vous avez été étonnés, parce que les chercheurs passent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d'encre ou d'efforts sur leur ordinateur pour expliquer qu'il y a des choses. Oh, ça paraît choquant, mais non, quoi. C'est pas trop choquant. Parce que vous avez pu être choqués quand même qu'il soit tellement question de profiter, de réussir en affaires, et que tout aille bien. Oh, elle apprécie son gain, et puis sa richesse, etc. Ça tourne bien, la prospérité. Et d'autre part, l'oisiveté du mari. Bon, un profiteur, voilà. Bon. Donc, je tourne ma page et j'ai déjà laissé entendre que dans le poème, il y a maintes allusions à la sagesse de différentes sortes. Alors, quand on dit qu'elle est plus précieuse que les perles, ben on trouve ça de la sagesse, si on veut. Quand on dit qu'il faut marcher avec elle et ne pas se fier en soi-même, ou bien qu'on ne manque de rien avec elle, etc. Mais on peut voir aussi des évocations de la sagesse quand on voit qu'elle rit. Mais ça requête. Qu'est-ce qui rit, qu'est-ce qui danse? C'est le même mot. C'est la sagesse qui est en présence du Créateur, en Proverbe 8. Ah. Donc, vous voyez, il y a des tas de sortes d'évocations de la sagesse dans le poème. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'agite d'un bout à l'autre. Elle est sur tous les chantiers. Moi, si j'avais une BD à faire à son sujet, je serais une bonne femme avec 36 mains et 36 jambes. Elle court partout. Vous savez, certaines fois dans les BD, on voit un petit bonhomme, il touche même pas terre tellement ses pieds tournent vite. On a plusieurs jambes. Bon, ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'elle s'agite comme ça et on a l'impression que c'est la sagesse qui danse. Vous voyez? Donc, à la fois par un mot et par l'attitude de la femme, elle peut faire penser à la sagesse. Mais on peut encore y voir une note sapientielle par le fait qu'elle fait penser à Tyr. Elle serait comme une anti-Tyr. Alors ça, il faut connaître Ézéchiel 26 à 28. C'est une ville où il y a une sagesse et un paradis avec des sages. Et seulement, le roi de Tyr va tomber du paradis. Et notre femme, eh bien, c'est au contraire une remise en Éden qu'elle va faire. Elle va, si on regarde bien, c'est un autre aspect sapientiel, elle va être comme une contre-Tyr, une anti-Tyr avec une vraie sagesse paradisiaque. Voilà. Et puis, la fin de mon propos, c'est que entre des endroits où il est question de sagesse, il est question de bonté. Gracias. Donc, là, je vous invite à regarder 26-27. On est à ce que les spécialistes appellent la fin du corps du poème. Parce que vous voyez bien que tout du long, vous avez « elle fait ceci, elle fait cela, elle se lève, elle jette tel sein, elle considère, elle met la main, etc. » Donc, ça, c'est le corps du poème. Il est question de tout ce qu'elle fait, la dame. Et au verset 26-27, ce sont les derniers. C'est la fin du corps du poème. Et donc, on voit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et qu'elle surveille la marche de sa maison. Ah. Alors, c'est là que nous avons le fameux jeu de mots avec un mot grec. Parce que elle surveille, c'est Sophia. Mais ça fait allusion à Sophia, la petite sagesse. Bon. Et donc, on a deux mentions de sagesse en 26a et 27a. Et seulement, ce qu'elle surveille, ça peut être aussi les processions du temple. Parce que Baït, la maison, c'est le temple. Et on va voir apparaître peu à peu le registre temple. Et au milieu des deux mentions de sagesse, on a en 26b une Torah de bonté. Alors vous allez dire, tiens, bah, y a la Torah, c'est religieux. Mais hé, y a plus expert que moi qui dit que non. Le spécialiste israélien de ce texte dit non. Torah ici, c'est pas un mot religieux, ça veut dire simplement enseignement. Elle n'enseigne pas la Torah. Il est même choqué qu'on fasse tant d'éloges de cette femme, l'israélien. Elle ne le mérite pas. Bon, mais on a quand même le mot Torah. Torah de bonté. Donc, la bonté vient ici encadrée par la sagesse. C'est le chesed. Et cette bonté, encadrée par la sagesse, elle est dans un endroit stratégique du poème. C'est comme son lest, vous savez, les petits bonshommes avec un cul de plomb. Ils se baladent comme ça, mais ils retombent toujours bien droit parce qu'il y a le plomb. Donc c'est comme le lest du poème à cet endroit. Et donc, on a une mention du chesed, la bonté. Et donc la femme, elle enseigne, elle parle bonté. Ah, et cela renvoie à la bonté du milieu, au verset 20, parce qu'on la voit faire l'aumône. Alors certains disaient, d'entre vous, je pense, oh ben on dirait bien une dame patronesse, elle n'était pas, elle est tellement riche, puis tiens, quand même, elle fait un petit peu la charité. Or, nous sommes en train de commencer à voir que la charité va être quelque chose de gigantesque dans ce poème. Parce que dans le lest, tout en bas, je viens de vous dire, en 26-27, la bonté, la charité est encadrée de sagesse. Au milieu, il est question de charité par l'aumône qui est un des piliers du judaïsme, enfin. Et tout en haut, au verset 12, elle agit pour son bien à son mari et non pour son malheur. Bon, elle lui fait du bien et non du mal. Bon, on dirait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui dire qu'elle ne lui fait pas de tort? Bon, on dirait. Elle se comporte bien envers son mari. Donc, on remarque quand même, on est intrigué. On dit, quand on parle à la fois du bien et du mal, ça peut être une mention de la Torah. Mais, il faut aller encore plus loin, parce que, et là, c'est les interprètes israéliens et israélites qui me disent que c'est une bonne piste. Si on précise qu'elle ne lui fait pas de tort, c'est que peut-être, avec humour, il aurait bien mérité de recevoir une correction. Parce que nous allons découvrir que dans le poème, il est question d'un Jacob, d'un coquin, qui se cache. Et ça, on le verra demain matin. Mais donc, vous voyez, elle lui fait du bien et non du mal, mais il en aura bien peut-être mérité autant. Voilà, donc, vous voyez, ce petit parcours que nous venons de faire, il montre que la bonté, ça, au contraire de ce qui paraîtrait, la charité, c'est au début, au milieu et à la fin, et surtout, on y retrouve l'expression Gemilut Chassadim ou Gemilut Chesed, que peut-être vous avez déjà entendu prononcer par notre cher père Jacques Bernard, qui est un des trois piliers du judaïsme. Alors, on le savait par les rabbins, mais nous voyons ici, et nous allons le voir davantage, c'était une caractéristique de l'époque perse, grecque, la charité, elle a pris énormément d'importance. Et le grand prêtre Simon le Juste dit... sur trois choses le monde repose, pour un juif, la Torah, le culte et les œuvres de charité. Voilà. Donc, je termine ici mon premier petit discours. Alors, je crois que je vais laisser Catherine.
Je peux juste rajouter que, ça m'intéressait parce que Resed est l'un des termes clés de la théologie du livre de Ruth. Et vous avez la femme vaillante au début... Et Resed revient sans arrêt dans tous les chapitres du livre de Ruth pour caractériser Ruth et Boaz.
Donc Ruth est bien présente.
Si. Alors on va prendre juste quelques minutes personnellement maintenant. Quelques minutes personnellement, juste pour essayer de repérer ce que nous avons appris. Voilà, donc cette lecture de la dernière page du livre des Proverbes.